Chapitre 48.
Obermalow parcourait les rapports d'un air las. 2 ans à la mairie l'avaient un peu assagi. Il était plus patient, sans doute plus diplomate que naguère. Mais le jargon administratif demeurait pour lui, quelque effort qu'il fît pour s'y habituer, un idiome incompréhensible, une langue irréductiblement étrangère.
Combien d'appareils touchés ? Demanda Jell.
4 bloqués au sol, 2 portés manquants, tous les autres ont été repérés et ne signalent aucune avarie.
Nous aurions dû faire mieux, grommela Mallow.
Enfin, il ne s'agit que d'une escarmouche.
Comme l'autre ne répondait pas, Mallow leva les yeux vers lui.
Il y a quelque chose qui vous tracasse ?
La réponse fusa, inattendue. Je regrette que Sutt ne soit pas ici.
Allons bon. Nous allons avoir droit à une conférence sur le front intérieur ?
Pas du tout, répondit Jell d'un ton sec.
Mais aussi, vous êtes têtu, Mallow. Vous êtes peut-être un as en matière de politique étrangère, vous avez beau avoir étudié dans ses moindres détails la situation interplanétaire. Vous ne vous êtes jamais soucié de ce qui se passait ici, sur notre propre planète.
Mais ça, c'est votre travail, il me semble. Pourquoi croyez-vous que je vous ai nommé ministre de l'Éducation et de la Propagande ?
Sans doute pour me faire vieillir avant l'âge, étant donné le peu d'appui que vous me donnez dans ma tâche.
Voilà 1 an que je vous rebats les oreilles du danger que représentent Sutt et ses religionnistes.
À quoi serviront vos plans si Sutt fait un coup de force à l'occasion des prochaines élections et réussit à vous évincer ?
À rien, j'en conviens.
Et votre discours d'hier soir ? On aurait dit que vous vouliez lui apporter la victoire sur un plateau d'argent, et avec le sourire en plus.
Était-ce bien nécessaire d'être aussi franc ?
Vous n'avez pas compris que je voulais couper l'herbe sous les pieds de mon adversaire ?
Eh bien ! S'emporta Jell. Si c'est le cas, ce n'est pas une réussite, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous prétendez avoir tout prévu, mais cela n'explique pas pourquoi vous avez commercé avec Corel pendant 3 ans pour le seul bénéfice des Coreliens.
Votre seul plan de bataille consiste à retirer vos troupes sans combattre. Vous renoncez à toute relation commerciale avec les secteurs voisins de Corel, vous proclamez ouvertement vos intentions pacifiques. Vous ne promettez même pas d'offensive dans le proche avenir.
Par la galaxie, Mallow ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un programme pareil ?
Vous trouvez que ça manque de panache ?
Ça manque de charisme, en tout cas.
C'est la même chose.
Enfin, Mallow ! Réveillez-vous, bon sang ! Vous n'avez plus que 2 solutions. Ou bien, vous adoptez une politique étrangère digne de ce nom du point de vue du peuple, quelles que soient par ailleurs vos intentions personnelles, ou bien vous vous arrangez pour parvenir à un compromis avec Sutt.
Parfait,
dit Mallow.
Eh bien, puisque j'ai l'air d'avoir échoué à mener à bien la première solution, essayons la seconde. Sutt vient d'arriver.
Sutt et Mallow ne s'étaient pas rencontrés depuis le jour du procès, 2 ans auparavant. Les deux hommes eurent beau s'observer, ni l'un ni l'autre n'avait changé. Seuls, de subtils détails à peine perceptibles montraient que les rôles étaient maintenant inversés et que les leviers de commande avaient passé à celui qui, jadis, bravait l'autorité. Sutt s'assit sans serrer la main de Mallow.
« Ça ne vous ennuie pas que Jell assiste à notre entretien ?»
demanda Mallow en lui offrant un cigare.
« Il souhaite ardemment que nous parvenions à un compromis si le débat venait à s'envenimer. Il servira de médiateur. »
Sutt haussa les épaules.
« Un compromis ne peut servir que vos intérêts.
Dans des circonstances analogues, je me souviens de vous avoir demandé un jour quelles étaient vos conditions. Je suppose que nous nous trouvons aujourd'hui dans la position inverse.
On ne peut rien vous cacher.
Alors voici mes conditions. Vous abandonnez cette politique économique insensée. Vous faites cesser cette corruption généralisée, ce commerce de pacotille, pour revenir à la politique étrangère que pratiquaient nos pères et qui avait fait ses preuves, elle.
Vous voulez parler de la conquête par l'entremise des missionnaires ?
Oui.
sinon vous n'acceptez pas de compromis. Voilà.
Eh bien...
Malo aspira profondément la fumée de son cigare, dont l'extrémité se mit à luire d'un rouge intense.
Du temps de Hardin, au premier temps de la conquête, les missionnaires n'y allaient pas par quatre chemins, vous savez.
Si vous aviez vécu à cette époque-là, vous auriez été le premier à condamner cette nouvelle politique.
Mais aujourd'hui, tout ça est rentré dans les mœurs. Tout fonctionne sans heurts, avec la bénédiction du clergé. Quoi de mieux pour séduire quelqu'un comme Joran Sutt?
Mais dites-moi, comment comptez-vous nous tirer du pétrin dans lequel vous nous avez fourrés?
Parlez de vous. Si nous sommes dans le pétrin, comme vous le dites, c'est bien à vous que nous le devons. Moi, je n'y suis pour rien.
Admettons. Je ne suis pas contrariant.
Alors, que comptez-vous faire? Une offensive énergique s'impose. L'impasse dans laquelle vous vous obstinez à nous mener risque de nous être fatale. C'est un aveu de faiblesse vis-à-vis de toute la périphérie. Et vous savez à quel point il est important, vital pour nous de sauver la face.
Les charognards nous guettent, Malo. Vous devriez le comprendre. Vous n'êtes pas smyrnien pour rien.
Malo, sans relever l'allusion, demanda
« Et si vous écrasez Corel,
que faites-vous de l'Empire ? Voilà le véritable ennemi. »
Sutt eut un sourire narquois.
« Oh non ! Les rapports que vous avez communiqués à la suite de votre visite sur Siwena sont significatifs. Le vice-roi du secteur normannique tient à provoquer des troubles dans la périphérie parce qu'il compte en profiter. Mais ce n'est là qu'un à côté de la question. Il ne va pas risquer toutes ses forces dans une expédition aux confins de la galaxie, alors qu'il est entouré de 50 voisins plus hostiles les uns que les autres, sans parler de la rébellion contre l'empereur qui risque de l'occuper passablement. En disant cela, je me contente de vous paraphraser, d'ailleurs.
Détrompez-vous, Sutt. Le vice-roi pourrait fort bien nous attaquer, s'il nous estime assez forts pour constituer une menace. Et ce pourrait bien être le cas, si nous nous risquons à mener contre Corel une attaque frontale, et que nous la détruisons. Il va nous falloir jouer serré.
C'est-à-dire...
Malo se carra dans son fauteuil.
Sutt, je vais vous laisser une chance. Je n'ai pas besoin de vous, mais vous pouvez tout de même m'être utile à votre manière. Je vais donc vous dire où nous en sommes, et vous pourrez alors soit vous ranger à mes côtés et participer à un gouvernement de coalition, soit jouer les martyrs et aller croupir en prison. La dernière solution, vous l'avez déjà essayée, il me semble, justement. C'était juste un essai. Mais aujourd'hui, ce ne serait plus pareil. Écoutez-moi bien.
Malo fixa son interlocuteur. La première fois que j'ai débarqué sur Corel. Commença-t-il. J'ai corrompu le Commodore, grâce au stock de babioles que tout bon marchand a toujours sous la main en cas de nécessité. Au début, il ne s'agissait pour moi que d'obtenir l'accès à une fonderie. Je n'avais pas d'autre plan. Et j'ai obtenu ce que je voulais. Ce n'est qu'après ma visite à l'Empire que j'ai compris que ces nouvelles relations commerciales pouvaient constituer une arme redoutable.
Nous sommes en présence d'une crise Seldon,
Sutt.
Et ce ne sont pas de simples individus, mais bien des forces d'ampleur historique qui peuvent résoudre ce genre de crise. Lorsqu'il a entrepris de planifier le cours de notre histoire, Harry Seldon ne s'est pas embarrassé d'initiatives individuelles. Il n'avait que faire des héros. Il n'a pris en compte que les événements dans leur ensemble. Autrement dit, les grandes tendances économiques et sociales. Les crises Seldon doivent donc être combattues au moyen des forces dont nous disposons à l'époque où elles se produisent. En l'occurrence, le commerce.
Sutt prit un air dubitatif et profita du silence de Malo pour glisser
Au risque de vous paraître particulièrement obtus, je dois dire que votre conférence n'a guère éclairé ma lanterne.
Ne vous inquiétez pas, ça va venir,
fit Malo.
Si vous regardez bien, jusqu'à maintenant, on a sous-estimé la puissance du commerce. On a toujours cru que pour se servir du commerce comme d'une arme, il fallait obligatoirement un clergé sous contrôle de la Fondation. Or, il n'en est rien. Et c'est là la contribution que j'apporte à la solution du problème. Le commerce sans les prêtres. Du commerce à l'état pur. Le commerce est assez fort pour se passer des prêtres. Mais trêve de généralité, revenons à ce qui nous occupe.
Corel est maintenant en guerre avec nous. Nous avons donc cessé toute relation commerciale avec elle. Mais, et vous remarquerez au passage la simplicité du raisonnement, depuis 3 ans, l'économie de Corel dépend de plus en plus de la technologie nucléaire que nous avons introduite là-bas et qui n'a plus lieu d'être sans les matériaux que nous fournissons.
Que va-t-il se passer, à votre avis? Quand les générateurs atomiques microscopiques qui animent les instruments que nous leur avons vendus s'arrêteront? Et que l'un après l'autre, tous ces merveilleux petits gadgets cesseront de fonctionner.
Les appareils domestiques vont se détraquer les premiers. Après 6 mois de cette impasse politico-commerciale que vous abhorrez tant, la ménagère corélienne va s'apercevoir que ses couteaux atomiques ne coupent plus, que son four atomique a dératé, que sa machine à laver lave moins bien qu'avant, que le système de régulation de la température et du taux d'humidité s'arrête en pleine canicule.
Et que va-t-il se passer, d'après vous?
Il attendit la réponse de Sutt.
Rien,
répondit celui-ci très calmement.
En temps de guerre, les gens en supportent bien d'autres.
Tout à fait. S'il le faut, ils enverront volontiers leur fils se faire massacrer par milliers dans des vaisseaux hors d'usage. Pour la patrie, ils accepteront de vivre de pain rassis et d'eau croupie dans des abris souterrains si les bombardements ennemis commencent.
Mais les choses sont bien différentes quand on n'a pas ainsi, au jour le jour, l'assurance que la patrie est en danger.
Sans l'aiguillon du danger, la résistance aux petits tracas du quotidien s'affaiblit très vite. Or, quand sera-t-il? Justement, ce sera l'impasse, le statu quo, l'inaction, quoi. Pas de blessés, pas de bombardements, pas de bataille.
Simplement, les couteaux ne couperont plus, les fours ne chaufferont plus, les maisons seront glaciales en hiver.
Les gens ne seront pas contents. Ils vont commencer à se plaindre.
C'est ça, votre solution miracle?
Demanda Sutt incrédule en articulant délibérément.
Vous vous attendez à quoi? À une révolte des ménagères? Une jacquerie domestique? Un soulèvement généralisé du petit commerce? Vous croyez que les bouchers vont descendre comme ça dans la rue en brandissant leur hachoir à viande? Que les épiciers vont se mettre à défiler avec leurs couteaux à pain à la main en criant « Rendez-nous nos machines à laver atomiques automatiques méga propres !»«
Bien sûr que non, enfin !» répondit Malo irrité. « Ce n'est pas là-dessus que je compte. »
Je m'attends en revanche à voir se développer un climat de mécontentement qu'exploiteront par la suite des personnages plus influents.
Et de qui pourrait-il bien s'agir?
Des patrons d'usine, voyons.
De tous les industriels de Corel. Après 2 ans de ce statu quo, les machines commenceront à tomber en panne les unes après les autres.
Ces industries que nous avons bouleversées en les faisant bénéficier de nos multiples appareils atomiques vont se trouver ruinées.
Du jour au lendemain, les manias de l'industrie lourde se retrouveront à la tête de monceaux de ferrailles inutiles.
Les usines tournaient bien avant votre arrivée, Malo.
Je sais, Sutt.
Leur bénéfice était environ 20 fois moins important qu'ils ne le sont aujourd'hui.
Et je ne parle même pas de ce que coûterait la reconversion de l'industrie sur la base de ce qu'elle était à l'époque préatomique.
Quand il aura contre lui les financiers, les industriels et les coréliens moyens, combien de temps croyez-vous que le Commodore pourra tenir ?
aussi longtemps qu'il voudra, dès qu'il aura l'idée de demander à l'Empire de nouveaux générateurs. »
Malo éclata d'un rire franc et joyeux.
« Vous n'avez rien compris, Sutt. Vous avez commis la même erreur que le Commodore.
Écoutez-moi, bon sang.
L'Empire ne peut rien remplacer. L'Empire est immense, il l'a toujours été, et ses ressources sont immenses. Ses techniciens ont toujours tout calculé à l'échelle des planètes, des systèmes stellaires, des secteurs galactiques. Leurs générateurs sont gigantesques. Ils sont à l'image de leur vision de l'univers.
Mais nous, petite fondation, avec notre petite planète, seule et unique planète dont nous disposions,
nous avons dû repartir de zéro, pratiquement sans minerai. Il nous a fallu construire des générateurs gros comme le pouce, parce que nous n'avions pas beaucoup de métal. Nous avons dû mettre au point des techniques et des méthodes nouvelles que l'Empire est incapable d'appliquer parce que ses ingénieurs en sont à un point de décadence qui ne leur permet plus de faire de nouvelles découvertes scientifiques. Ils ont peut-être des générateurs de champs de force assez vastes pour protéger un vaisseau, une ville ou une planète tout entière. Mais ils n'ont jamais été fichus d'en construire qui soit capable de protéger un individu. Pour fournir de l'électricité à une ville, pour la chauffer, ils ont des moteurs grands, comme un immeuble de 6 étages.
Je le sais, je les ai vus.
Alors que les nôtres pourraient tenir aisément dans la pièce où nous nous trouvons. Et quand j'ai dit à un de leurs spécialistes qu'un boîtier de plomb gros comme une noix contenait un générateur atomique, il a failli en mourir. J'ai cru qu'il allait s'étouffer. Enfin quoi? Ils ne savent même plus comment fonctionnent les monstres qui leur servent de générateurs. Les machines tournent automatiquement depuis des générations, et les surveillants forment une caste héréditaire dont aucun membre ne serait capable de changer une ampoule à quartz si jamais elle venait à griller. La guerre se ramène à un conflit entre deux systèmes. L'Empire et la Fondation. Le Colosse et le Nain. Pour s'emparer d'un monde, les gens de l'Empire le comblent de vaisseaux. Des engins qui sont parfaits pour faire la guerre, mais qui ne présentent aucun intérêt au point de vue économique. Tandis que nous inondons les planètes de petits appareils inutiles en temps de guerre, mais qui jouent un rôle capital dans la prospérité et le confort du pays en temps de paix. Un roi ou un commodore préférera les vaisseaux et fera peut-être même la guerre coûte que coûte. Tout au long de l'histoire, les usurpateurs ont toujours sacrifié le bien-être de leurs sujets à ce qu'ils appellent l'honneur, la gloire, la conquête. Mais ce sont en définitive les petites choses qui comptent dans la vie. Et Asper Argo ne pourra résister à la crise économique qui, dans 2 ou 3 ans, va ravager Corel.
Sutt était à la fenêtre. Il tournait le dos à Malo et à Jell. Le soir venait, et les rares étoiles qui brillaient à la périphérie commençaient à scintiller faiblement, dans un ciel d'un noir d'encre. Là-bas, presque invisible, une brume lenticulaire lui rappelait que la galaxie était une menace bien réelle, et que son empire disposait encore d'une puissance formidable.
« Non, » dit enfin Sutt. « Je ne marche pas. »«
Vous ne me croyez pas ? » ?»«
Ce n'est pas cela. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas confiance en vous. »« Vous avez la parole trop facile. »« Vous m'avez eu une fois déjà. » Alors que je croyais votre cas réglé lors de votre premier voyage sur Corel. Puis, quand j'ai cru vous avoir enfin coincé dans ce procès, vous vous êtes encore tiré d'affaire, une vraie anguille. Bien mieux, votre démagogie vous a porté à la mairie. Vous êtes viscéralement incapable de jouer franc jeu. Votre opinion dissimule toujours une arrière-pensée. Vos déclarations impliquent toujours des sous-entendus.
Supposons que vous soyez un traître.
Supposons que, de votre visite en territoire impérial, vous ayez rapporté l'assurance qu'on vous donnerait un jour tous les appuis nécessaires pour vous maintenir au pouvoir. Vous ne feriez pas autre chose que ce que vous faites en ce moment? Vous provoqueriez une guerre après vous être arrangé pour accroître les forces de l'ennemi? Vous contraindriez la Fondation à observer une attitude résolument passive? Et vous trouveriez, pour chacune de vos attitudes, une explication tellement plausible qu'elle convaincrait tout le monde.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas de compromis possible entre nous?
Demanda Malo d'une voix douce.
Je veux dire que vous devez renoncer de gré ou de force au pouvoir.
Je vous ai prévenu de ce qui vous attendait au cas où vous refuseriez de collaborer.
Joran Sutt était rouge de colère.
Et moi je vous préviens, Aubert Malo de Smyrno, que si vous m'arrêtez, ce sera la guerre totale. Mes hommes iront partout répandre la vérité sur votre compte, et le peuple de la Fondation s'unira contre son souverain étranger. Ces gens ont un sens de la destinée qu'un Smyrnien ne peut comprendre, et qui fera votre perte.
Emmenez-le,
dit Aubert Malo aux deux gardes qui venaient d'entrer.
Il est en état d'arrestation.
C'est votre dernière chance, dit Sutt.
Malo écrasa le mégot de son cigare dans le cendrier sans même lever les yeux. 5 minutes plus tard, Jell s'agita dans son fauteuil et demanda d'un ton las.
Eh bien, maintenant que vous venez de donner un martyr à leur cause, qu'avez-vous l'intention de faire?
Malo cessa de jouer avec le cendrier.
Ce n'est plus le Sutt que j'ai connu, dit-il. La colère l'aveugle. Par la galaxie, il me déteste.
Ce qui le rend d'autant plus dangereux.
Allons donc. Il a perdu toute faculté de jugement.
Vous êtes beaucoup trop optimiste, Malo, fit Jell d'un ton amer. Vous ignorez délibérément la possibilité d'un soulèvement populaire.
Sachez-le une fois pour toutes, Jell. Un soulèvement populaire est impossible.
Je vous trouve bien sûr de vous.
Je suis sûr d'une chose, en tout cas. Les crises Seldon sont une réalité. Et sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur, l'histoire a prouvé qu'on pouvait leur apporter des solutions.
Je n'ai pas tout dit à Sutt. Il a essayé de contrôler la Fondation elle-même par la religion, comme il dominait les provinces. Et il a échoué, ce qui est la preuve évidente que, dans le plan de Seldon, le rôle de la religion est achevé. Le contrôle par le biais de l'économie fonctionnait différemment. Pour paraphraser cette maxime de Salvor Hardin qui a l'air de tant vous amuser, un désintégrateur ne sert pas à grand-chose si vous ne pouvez pas décider de quel côté du canon vous allez vous retrouver au moment où il tirera. Si nos relations commerciales avec Corel ont fait la prospérité de cette planète, nous n'y avons rien perdu de notre côté. Si demain les usines coréliennes ne peuvent plus tourner sans nous, si la prospérité des provinces s'épanouit par suite de l'isolationnisme économique, nos propres usines péricliteront, faute de débouchés, et notre économie ne sera plus qu'un souvenir. Or, il n'est pas une usine, pas un centre commercial, pas une compagnie de navigation interstellaire qui ne soit sous ma domination. Pas une de ces entreprises que je ne puisse étrangler si Sutt poursuit sa propagande révolutionnaire. Partout où cette propagande donnera des résultats ou semblera en donner, je veillerai à ce que la prospérité économique cesse. Là où les efforts de Sutt échoueront, la situation demeurera florissante, car mes usines continueront à tourner normalement. Et de même que je suis sûr de voir bientôt les Coréliens se révolter pour retrouver leur confort et leur prospérité, je suis non moins certain que nous ne ferons rien, nous,
pour perdre ces mêmes avantages. Par conséquent, il faut jouer le jeu jusqu'au bout.
C'est donc une ploutocratie que vous voulez instaurer, dit Jell. Vous faites de la Fondation un royaume de commerçants et de princes marchands. Dans ces conditions, que nous réserve l'avenir?
L'air soudain lugubre, Malo s'exclama avec violence.
« Qu'est-ce que j'en ai à faire de l'avenir ?»«
Nul doute que Seldon a déjà tout préparé, tout prévu en cas de problème. Il se produira d'autres crises quand la puissance de l'argent aura décliné. Comme c'est aujourd'hui le cas de celle de la religion. À mes successeurs de résoudre ces problèmes comme je viens de régler celui qui nous occupe aujourd'hui. »
Corel. C'est ainsi qu'après 3 ans de la guerre sans doute la plus pacifique de toute l'histoire, la République de Corel capitula sans condition. Aubert Malo prit alors place au Panthéon de la Fondation, auprès de Harry Seldon et de Salvor Hardin. Encyclopédia Galactica.